Radio & Co.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. 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 Différence.
Radio & Co.
Bonjour Thomas.
Bonjour Christian.
Bonjour Mike.
Bonjour Christian.
Bonjour Luc.
Bonjour Christian.
Mais bienvenue sur Radio & Co, le podcast qui fait la différence. Christian au micro. Alors merci à vous de m'accompagner pour la première partie de cet épisode dans lequel nous avons le plaisir de recevoir Jérémy Bachelard pour nous parler de son parcours sportif et de son activité professionnelle. Jérémy, bonjour à toi.
Bonjour Christian, bonjour à tous.
Merci de nous rendre visite à Café & Co. Et comme je demande à tous les invités, tout d'abord, avant que je te laisse entre les mains de mes collègues qui ont de nombreuses questions à te poser, je voudrais que tu te présentes en quelques mots.
Ok, tout d'abord, merci beaucoup de m'inviter. Donc Jérémy Bachelard, j'ai travaillé pendant près de 17 ans à la SEI, dans le médico-social, en tant qu'éducateur sportif. Aujourd'hui, je n'y suis plus et j'ai monté mon entreprise. Maintenant, je suis professeur de yoga et praticien en massage bien-être.
Quel est ton parcours de sportif du coup ?
Mon parcours personnel, ouais. Sportif, ouais. J'ai principalement fait du triathlon. Après, en tant qu'éducateur sportif, j'ai touché un petit peu à tous les sports, mais mon sport de prédilection, c'était le triathlon, donc natation, vélo, course à pied.
Oui, un sport assez complet quand même.
Oui, qui demande beaucoup de temps, tant que j'ai eu de moins en moins au fur et à mesure que j'ai eu des enfants. Donc j'ai réduit progressivement mon activité jusqu'à mon troisième enfant où là j'ai arrêté le triathlon au profit d'autres choses où entre-temps j'ai découvert le yoga. Je l'ai beaucoup pratiqué pour moi et après j'ai développé une activité des cours de yoga que je propose maintenant aujourd'hui. Voilà.
Est-ce que vous avez déjà fait un Ironman ?
Alors j'ai jamais fait d'Ironman mais j'ai fait un tout petit peu mieux. J'ai fait un Embraman. Enfin, j'en ai fait même trois.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est-à-dire, l'Ironman, c'est une distance. Mm-hmm. Et ça correspond aussi à un cahier des charges. C'est-à-dire que ça correspond à 3 800 km de mémoire de natation, 180 km de vélo et 42 km, 195, donc un marathon en course à pied. Mais ça doit se faire sur un parcours plus ou moins vallonné, plus ou moins plat. En termes de difficulté, on retrouve un petit peu la même difficulté d'un Ironman à l'autre, plus ou moins. L'Embraman, ça se passe en Embrun, donc dans les Alpes. Et on passe par des difficultés comme le col de l'Isoire, où il y a beaucoup, beaucoup de dénivelé. Et Embraman, les meilleurs mettent autour de 10 heures, alors que sur un Ironman classique, il tourne autour de 8 heures.
D'accord, donc, merci.
Voilà.
Quelles sont vos envies et passions ?
Mes passions ?
Oui, les envies.
Hobby et passion. Donc aujourd'hui, ma passion, c'est plutôt tourner vers le yoga. Je suis toujours sur le mouvement, sur le corps. Moi, ma passion, c'est la pratique de l'activité physique, quelle qu'elle soit. Et aujourd'hui, je suis moins dans la performance comme j'ai pu l'être il y a quelques années avec le triathlon. Et je suis plus à l'écoute de mon corps et au ressenti comme la pratique de yoga peut m'apporter.
Comment êtes-vous devenu éducateur sportif ? Quelle formation avez-vous suivi ?
Alors, moi j'ai eu un parcours un petit peu atypique, on va dire, comme beaucoup d'entre nous. J'ai fait un bac technologique et c'était une époque où dans ma vie je ne savais pas trop quoi faire. J'ai choisi un BTS par défaut. J'ai fait un BTS de mécanique automatisme industriel, hein, ce qui ne destinait pas vraiment à la pratique du sport, mais bon, je l'ai eu, je l'ai terminé. Une fois que j'ai eu un diplôme en main, une assurance de trouver un travail avec, je me suis dit que j'allais me relancer dans d'autres études, donc des études dans le sport. J'ai fait le CREPS où j'ai passé des brevets d'État, donc le brevet d'État de maître nageur sauveteur, activité pour tous, handisport, et j'ai repris une filière STAPS après. Et grâce à mon BTS, j'ai pu entrer directement en troisième année, parce que j'avais un niveau bac plus 2 et on m'a accepté en troisième année de licence STAPS. Et j'ai pu obtenir une licence, donc une troisième année à la faculté. Et j'ai pris option management du sport et j'ai refait ensuite une quatrième année où c'était l'option activité physique adaptée.
Justement, quel a été ton rôle en tant qu'éducateur sportif quand tu travaillais à l'ASEI ?
Alors, mon rôle, il a été multiple puisque j'ai travaillé dans plusieurs établissements. J'ai d'abord travaillé au foyer Périol, où j'ai pu rencontrer Luc et Mike notamment. Donc là, c'était plus une activité. Je me suis servi du sport comme un outil à visée éducative, à visée d'autonomie. C'était mon principal objectif, voilà, de rendre les gens autonomes à la fois dans leur pratique, dans leur santé, dans la maîtrise de leur poids, de leur mouvement, de leur équilibre, de leur souplesse. L'objectif, c'était ça, et de développer l'envie de faire éventuellement aussi sans moi, c'est-à-dire chez soi, le week-end, en famille. Et parallèlement à ça, j'ai été aussi embauché quelques années après au centre Jean Lagarde. Et là, l'objectif de mes missions principales, ma mission principale était de m'occuper de l'équipe de foot fauteuil électrique. Ah. Voilà, dont j'aperçois Jennings là-bas, qui était un de mes joueurs. Voilà.
Quel est votre métier aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, Mike, mon métier, je ne suis plus éducateur sportif. Et j'ai développé une micro-entreprise, donc on va dire que je suis chef d'entreprise.
Entrepreneur.
Auto-entrepreneur. Et aujourd'hui, je propose des cours de yoga, de nombreux cours de yoga dans la semaine. Je travaille chez moi, puisque je me suis aménagé un espace avec une salle suffisamment grande pour accueillir au moins bien 7 personnes. Et dans ce même lieu, je propose aussi, puisque je me suis formé ensuite dans la pratique du massage bien-être, et je propose aussi des massages à ce moment-là. Et je travaille aussi en partenariat avec les entreprises, avec certaines entreprises.
Est-il difficile de trouver sa place dans votre domaine ?
Alors oui, c'est assez difficile. Ma principale difficulté, en fait, réside sur la communication. Effectivement, c'est pas facile de se démarquer des autres et de se faire connaître, en fait. Maintenant, moi, la façon dont je travaille, j'ai pas l'impression de travailler maintenant. Je fais vraiment des choses qui me plaisent. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un travail. C'est vraiment une activité, une activité qui est rémunératrice. Mais je le prends pas comme un travail, comme quelque chose de pénible. Mais la façon dont je vais employer le mot travail, je propose quelque chose qui ne se propose pas ailleurs. Voilà, j'essaye de faire quelque chose d'original, notamment au niveau des massages. Je mixe aussi des soins avec notamment le gong, les bols tibétains. Je prends le temps avec les gens, rien à voir avec un spa ou un espace esthétique où là ça va être des massages un petit peu à la chaîne. Donc ce que je fais, c'est assez personnel, assez unique. Par contre, maintenant, la partie communication, se faire connaître, ça c'est un point que j'ai, pour le coup, je dois travailler, parce que c'est pas évident pour moi d'investir les réseaux sociaux, de mettre des annonces dans les journaux, d'aller à la rencontre des commerces de proximité, d'appeler les entreprises. Voilà, c'est pas quelque chose qui est facile et naturel pour moi, mais... Voilà, je m'y mets petit à petit et ça se développe.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'évoluer dans votre carrière ?
Alors l'envie, c'est simple en fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas l'impression de travailler. Moi, je ne fais que des choses qui me plaisent. Donc mes deux activités principales, encore une fois, c'est le yoga et le massage. Mais je propose aussi d'autres activités comme des voyages sonores avec les bols tibétains, le gong et d'autres instruments. Je propose aussi du coaching sportif pour ceux qui le souhaitent, parce que j'ai quand même fait ça pendant 25 ans. Et je pense que mon expérience peut apporter des choses aux gens. Mais je ne le mets pas en avant parce que j'avais envie de passer à autre chose. Et je crois que j'ai perdu le fil de la question.
C'était qu'est-ce qui vous a donné envie d'évoluer dans votre carrière ?
Voilà, et ben, effectivement, je ne fais que des choses qui me plaisent. Et du coup, à l'idée de retourner éventuellement dans une activité salariée, avec des contraintes, avec une hiérarchie, une direction, des collègues, etc., fait que pour le moment, en tous les cas, je suis très bien dans ce que je fais Et j'ai vraiment très envie de continuer à développer cette activité parce que ça m'apporte vraiment beaucoup de joie, de satisfaction. Je rencontre plein de gens et j'investis des domaines dans lesquels je n'étais pas à l'aise, comme la communication. Et c'est vraiment intéressant. C'est challengeant. Voilà. Ça donne envie de se dépasser et de ne pas rester dans un travail un peu routinier comme ça a pu un peu peut-être le devenir sur la fin de ma carrière dans le médico-social.
Merci Thomas, Mike et Luc. Maintenant, nous allons laisser la place à d'autres journalistes.
Merci à vous.
Bonjour Mehdi.
Bonjour Christian.
Bonjour Jennings.
Salut Christian, salut tout le monde.
Bonjour Olivier.
Bonjour Christian.
Et merci de nous rejoindre pour continuer l'interview de Jérémy. Donc je vais vous laisser lui poser des questions.
Ouais. Bah déjà, est-ce que ton expérience de sportif te sert-elle dans ton métier ?
Ah oui, tout à fait. Oui, parce que pendant toute cette carrière de sportif, j'ai entretenu mon corps. Et aujourd'hui, je le connais bien. Je connais bien la position de mon corps dans l'espace, l'équilibre, le souffle, la résistance, l'endurance, la force, qui me permet de pouvoir donner de vrais conseils, de faire des démonstrations. Et ouais, aujourd'hui, je suis en corrélation avec voilà ce que je suis et ce que je dis. Voilà.
Quel conseil donneriez-vous pour garder la forme physique ?
Alors, le conseil, les conseils, parce que, oulala, il y en a tellement. Il en faut seulement un, le principal.
Non, c'est au pluriel.
Alors, pour garder la forme physique, donc faire un peu d'activité physique, modérée. Pas la peine d'en faire beaucoup, parce que quand on en fait beaucoup, comme j'ai pu en faire à un moment donné, on se blesse finalement souvent. Et finalement, on est aussi en mauvaise santé que si on ne faisait pas de sport. Voilà. Donc, sport avec modération. L'objectif, ce n'est pas d'une recherche de performance. L'objectif, c'est de se faire plaisir. Et bah, effectivement, la notion de plaisir, elle est importante. Prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Choisir une activité qui va nous apporter de la joie, tout simplement. Voilà. Après, si on n'aime pas marcher, si on n'aime pas courir, on peut simplement se dire, bah, tiens, aujourd'hui, j'adore le cinéma. Bah, je vais aller jusqu'au cinéma en marchant. Voilà. Et donc, ça nous donne un but et ça nous donne envie de sortir, de marcher. Ça donne un prétexte en tous les cas.
Il faudra faire combien de pas par jour normalement ?
Ah, combien de pas par jour ? Je pense que ça dépend des personnes. Ça dépend de son niveau, on va dire, de ses capacités physiques. Ça dépend de son âge, de effectivement son sexe. Ça dépend de sa corpulence, de plein de choses. Voilà, de là où on part. Donc, encore une fois, je pense que donner des conseils généraux, ça va être difficile. En fait, ça va être souvent propre à la personne. Voilà, on peut donner des grandes lignes, mais on adaptera un petit peu après en fonction, quoi. Si jamais on marche quasiment jamais, puis on se dit, bah, tiens, il faudrait que je marche un peu, bah, on va commencer par une petite sortie. On va faire 2, 3 maximum kilomètres. Et puis, bon, ce qui représente en nombre de pas, ça va être difficile à vous dire, mais ouais, 2-3 km, c'est bien. Et puis la fois d'après, la semaine d'après, le mois d'après, bah, on augmente petit à petit. Et puis on s'octroie aussi des moments de pause, parce que c'est important. Parce que, en fait, quand on fait du sport, on ne se rend pas plus fort. On se fatigue en faisant du sport. Là où on se rend plus fort, c'est quand on se repose après le sport. C'est quand on va dormir, c'est les moments de récupération. Donc tout ça, c'est aussi pas à négliger, voilà. Donc y aller progressivement, s'écouter, faire attention à son alimentation, son hydratation évidemment, faire un peu de tout, ne pas se lasser d'une activité, et faire un petit peu de tout, faire un peu d'endurance, un petit peu de force, un petit peu de résistance, voilà, de telle manière à faire travailler les fibres dans toutes leurs capacités, voilà. Et puis après, souvent on glisse et on s'oriente vers ce qui nous plaît le plus. Et puis prendre l'air, respirer, la respiration. Voilà. Depuis que je fais du yoga, je pense que une des clés de la santé, c'est la respiration. Voilà.
Est-ce que finalement celui qui vient de répondre à la question, c'est le Jérémy sportif de haut niveau, ou en tout cas qui a fait des activités sportives assez intenses, ou est-ce que c'est le Jérémy éducateur sportif, plutôt pédagogue ?
Alors, je parle à la fois au travers les formations que j'ai pu avoir, à travers mon expérience de l'accompagnement en tant qu'éducateur sportif, et je parle aussi à travers mes propres expériences personnelles de, alors, sportif de haut niveau, faudra pas exagérer, même si j'en ai fait bon, j'en faisais entre 15 et 20, parfois 25 heures dans la semaine. Voilà, bon, c'est vrai que ça représente ça représente beaucoup, mais non, j'ai jamais les prétentions d'avoir été un sportif de haut niveau. Et mais bon, toutes ces expériences m'ont amené justement à pouvoir donner les bons conseils, parce que moi je me revois jeune éducateur sportif. Le Jérémy qui avait 25, 26 ans, qui donnait des bons conseils, qui proposait des séances d'activité physique et sportive, c'est plus du tout le même que le Jérémy d'aujourd'hui. Je ne vous dirai pas mon âge, mais je vais quand même le dire, 47 ans, qui effectivement a du recul, a de l'expérience, et puis qui va plus orienter les conseils sur vraiment ce qu'on ressent vraiment, plutôt que sur ce qu'on attend de nous à l'extérieur, parce que sur le paraître, plutôt sur l'être et sur la connexion à soi, plutôt que regardez-moi, mon physique, mes perfs, mon joli collant, mon bandon de les cheveux, voilà. Beaucoup moins dans cet esprit-là.
Pratiquez-vous encore du sport aujourd'hui ?
Alors oui, tout à fait.
D'accord.
Tout à fait.
Quel sport ? Vous avez parlé du yoga.
Alors le yoga en tant que tel, ça ne va pas être un sport. Le sport, ça a je mets une différence très nette entre activité physique et sport.
D'accord.
Déjà sur la fin de ma carrière, j'aimais me définir comme éducateur d'activité physique plutôt qu'éducateur sportif.
D'accord.
Parce que je mettais plus l'accent sur le fait de faire du mouvement, une activité intense qui va nous faire transpirer, nous essouffler, travailler le cœur, nos muscles, nos articulations, plus que dans la recherche de performance pure.
Voilà.
Et de rechercher plus la notion de plaisir, encore une fois, la notion de joie dans ce qu'on fait, plutôt que regardez, c'est moi le plus fort. Mais même si effectivement quand on gagne une course ou quand on est bien placé dans une course, ça apporte énormément de plaisir, évidemment, ça je le néglige pas non plus. C'est un tout en fait, hein, tout, voilà, mais j'oriente plus mon accompagnement là-dessus. Maintenant aujourd'hui, donc je fais toujours du yoga, je fais beaucoup de yoga, donc je donne pas loin de 8 cours dans la semaine. Donc d'accord. Moi, je pratique en même temps que les pratiquants, même si j'en fais moins et que je suis plus à regarder si pratiquent correctement.
D'accord.
J'en fais à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure chaque matin pour ma pratique personnelle.
D'accord.
Et après, je vais courir. J'ai toujours quelques restes de triathlon où je vais courir une à deux fois par semaine, une sortie vélo, soit du VTT, soit du vélo de course. Par semaine. Et puis par contre, nager, c'est vrai que j'aimais beaucoup nager, et c'est une activité qui est contraignante. Il faut des horaires de piscine, il faut c'est moins aujourd'hui j'ai un emploi du temps qui est extrêmement varié, et j'essaye de simplifier certaines choses. Donc aller à la piscine, c'est beaucoup plus contraignant, beaucoup plus difficile à mettre en place que mettre ses baskets et puis aller courir vite fait le long du canal. Voilà.
Ouais,
mais je pratique toujours, effectivement.
Ouais. Et je voulais vous poser une autre question. Est-ce que vous avez fait de la sophrologie ?
Alors, en sophrologie, j'en ai fait quelques séances accompagnées.
Ouais, ouais.
Mais j'en ai pas plus que ça.
D'accord.
Je trouve ça intéressant.
D'accord.
Mais c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup exploré. Je connais plein de monde qui en pratique et j'en connais les bienfaits.
D'accord.
Mais, okay. Mais je ne vais pas être spécial, je ne vais pas pouvoir répondre à des questions sur la sophrologie.
D'accord. Ok, ok. Merci d'avoir répondu à mes questions.
Avec plaisir.
Alors, quels sont tes conseils pour garder un bon équilibre entre le mental et le physique ?
Bon équilibre entre le mental et le physique, c'est intéressant comme question. Je pense qu'il est intéressant de choisir de faire des mouvements en conscience. Quand on fait une activité, qu'on le fasse en conscience. Voilà, qu'on ne le fasse pas le moins possible avec des écouteurs dans les oreilles, de la musique, qui vont emmener notre esprit ailleurs que dans le ressenti pendant l'activité physique qu'on est en train de faire.
Ça revient un peu sur ce que tu disais du sport plaisir, quoi, par rapport au sport contrainte.
Ouais, bah après, bon, il y en a qui prennent beaucoup de plaisir à courir avec les écouteurs dans les oreilles et leur musique. Mais je trouve, pour ma part, et moi, c'est ce que j'essaye de transmettre comme message, c'est vraiment, moi, j'ai énormément de joie à me connecter à moi-même, quoi, à me connecter à mon cœur, à mon souffle, à mes sensations, mon ressenti. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça et ça m'oblige vraiment à écouter vraiment ce dont mon corps il a besoin et ce dont à un moment donné c'est suffisant. Là ça fait peut-être un peu trop, bah, c'est bien, bah, marche jusqu'à la fin et puis ça ira bien pour aujourd'hui, parce que c'est important de s'écouter et pas justement de mettre des images, des sons, des odeurs, enfin plein de choses qui vont stimuler et qui vont nous mettre un petit peu en décalage avec ce qu'on ressent vraiment. Voilà. Donc le mental, hein, c'est vrai qu'on parle de physique et de mental, le mental il est intéressant, mais de temps en temps le mental c'est bien de le laisser à l'extérieur, le laisser un petit peu de côté et de se connecter davantage à son ressenti, à ce qu'on ressent dans les tripes. Hein, d'ailleurs les tripes, hein, je fais un petit jeu de mots là, l'anagramme de tripes c'est esprit. Voilà, donc l'esprit il est dans les tripes aussi.
Et justement tu parlais de mental, comment tu le prépares en même temps que ton corps pour une compétition? Parce qu'on sait que bon, les deux sont très importants avant de faire un effort physique.
Alors oui, la compétition, j'en fais plus aujourd'hui. Mais si j'en faisais, comment je préparerais mon mental? Je pense que je le préparerais avec une bonne préparation physique pour que mon mental sache exactement où j'en suis physiquement, ce que mon corps est capable de faire. Là où j'ai besoin de lever le pied dans une côte ou bref à une certaine épreuve et en amont je pense que je ferai pas mal de massage aussi, parce que la pratique du massage, hein, parce que bon, bah, j'en viens aussi à une activité que je propose, hein, la pratique du massage c'est une reconnexion à soi aussi, une reconnexion à son corps. Il y a des personnes que j'ai pu masser qui n'étaient pas forcément très à l'aise dans certaines parties de leur corps, notamment leurs jambes, parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas de belles jambes ou voilà, qu'ils n'ont pas. Et après le massage, ils avaient cette sensation d'avoir d'être rempli un petit peu, d'avoir été contenu un petit peu, et de retrouver un peu cette sensation, et puis retrouver un petit peu l'amour de soi et le côté. Ouais, le côté connexion vraiment à l'entièreté de son corps. Donc la pratique du massage, et il y a des massages qui permettent aussi de s'aligner vraiment. Voilà, des massages notamment avec des pratiques inspirées des massages chinois, là, de la médecine chinoise, le tuina, qui vont vraiment amener justement à se focaliser plutôt qu'à avoir à être un petit peu éparpillé dans son esprit et avoir du mal à se concentrer sur une tâche ou sur une autre.
En fait, donc, il faudrait se focaliser plutôt sur soi avant une compétition pour mieux se préparer, c'est ça en gros?
Alors oui, bien sûr, même si c'est important d'étudier le terrain. Ouais. C'est-à-dire avant une course, il faut savoir, surtout si on a des prétentions à faire un podium, on a plutôt intérêt à savoir déjà à quelle heure on va faire cette course. Donc si on fait cette course à 10 heures, bah, on ne va pas s'entraîner en amont, on ne va pas s'entraîner à 18 heures le soir, on va s'entraîner à 10 heures le matin pour être dans les conditions toujours. Et puis, si c'est un parcours plat, bon, bah, faire de la côte, ça aura un intérêt limité. Voilà, c'est pareil, à quelle époque de l'année il se fait, s'il fait froid, s'il fait chaud, comment je m'habille. Donc tout ça, on va le préparer en amont. Mais ouais, voilà. Et après effectivement, avoir une pratique qui permette de savoir exactement où on en est. Ouais.
Et lors des compétitions qui sont très très longues, par exemple lors des matchs de football, au rugby, où il y a des prolongations, etc. Est-ce que tu penses que le mental est plus important que le corps? Est-ce que c'est grâce à ça que, par exemple, on peut se surpasser ou les deux vont de pair, hein?
Alors, moi, j'aime bien... Il y a un petit pourcentage là qui est intéressant à faire par rapport à une performance sportive. Une performance sportive, souvent, on dit que c'est 20% d'entraînement, 20% de génétique. Hein, parce qu'une Formule 1 ira toujours plus vite qu'une 2 chevaux, hein, bien sûr. 10% de dopage, hein, parce qu'une performance aujourd'hui, voilà. Et les 50% qui restent, c'est le mental. Ah, c'est-à-dire que les grands champions, ils ont un mental de champion. Ça, c'est sûr.
D'accord. Voilà. Donc le mental est plus important que...
Et par exemple, quand on fait une posture difficile en yoga et qu'on a du mal à la tenir parce que ça va demander un effort musculaire important, ça va travailler sur l'équilibre, ça va travailler sur plein... Et puis, à un moment donné, en termes de concentration, tout ça, ça va être difficile. Et ça va être difficile dans son corps, ça va être difficile dans sa tête. En fait, le corps, il peut tenir. Il peut tenir très longtemps. Mais la tête... Elle a du mal à tenir. Et en général, d'accord, on va sortir de la posture parce que le mental lâche avant le corps.
D'accord.
J'aurais une petite question complémentaire avant de redonner la parole à mes collègues. Par rapport au mental, comment expliques-tu que beaucoup de sportifs, je pense notamment à ma femme qui s'est mise au tennis il y a quelques années, disent « Oh, ben à l'entraînement, je me sentais bien. Quand je m'entraînais, quand je jouais avec les copines, je me sentais bien. Mais par contre, le jour de la compétition, le mental n'a pas suivi. »
Oui. Alors ça, effectivement, je pense que c'est... Oui, je vais te donner mon impression, hein, d'accord, mon ressenti. Moi, je me souviens que je m'entraînais avec un ami quand j'étais beaucoup plus jeune. À l'entraînement, j'étais systématiquement devant. Et quand on faisait la course, à la fin, c'était lui qui était systématiquement devant moi. Et l'entraînement, ça l'emmerdait. Pardon pour le terme. Et moi, en fait, j'adore m'entraîner, et j'adore faire une compétition, j'adore les deux, en fait. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était la compétition. Alors, je pense que c'était une question de mentalité, peut-être, de personnalité. Effectivement, il y a des gens qui vont se surpasser en compétition, ils vont être incroyables, alors qu'à l'entraînement, ils vont être moyens. Ouais. Et puis d'autres, c'est l'inverse, ils sont devant tout le monde et ils arrivent de... Bah, je pense que pour ces personnes-là qui sont devant tout le monde à l'entraînement et qui font des sous-performances en compétition, ils ont tout intérêt justement à bosser ce mental, à avoir un préparateur, quelqu'un qui va les accompagner justement pour les préparer mentalement, pourquoi pas un psy aussi, mais en tout cas un coach qui va insister là-dessus sur le mental et qui va soutenir. Ouais. Et puis mettre en place aussi des entraînements aussi qui vont le travailler, qui vont rassurer, qui vont permettre d'avoir cette assurance, qui vont éviter de s'effondrer en compétition.
Moi j'ai une question, mais ouais. Je ne sais pas trop dans quel contexte elle se pose. C'est des questions qui ont été préparées à l'avance et j'étais pas là quand elles ont été préparées.
Ouais, je t'en prie.
Et je pense que la question, je vous la donne comme ça. Votre accompagnement, je suppose que c'est l'accompagnement que vous faites dans le yoga notamment, puisque c'est votre pratique actuelle la plus importante. Mmh. Est-il ponctuel ou s'inscrit-il dans la durée?
Alors, ce que j'essaye de transmettre, c'est de l'inscrire dans la durée. Ouais. Voilà. Maintenant, y a des personnes qui viennent ponctuellement et c'est OK aussi pour moi. Moi, de mon point de vue, je pense que la notion d'engagement, elle est hyper importante. Parce que si on ne s'engage pas, derrière, il n'y a rien qui se passe. Donc, s'engager dans une pratique quelle qu'elle soit, alors on va parler du yoga, si je m'engage dans le yoga, je m'engage à venir au moins une fois par semaine. Si je veux avoir un semblant de résultat derrière, si je viens une fois par mois ou trois fois en une semaine et puis plus du tout pendant deux mois, en termes d'engagement, et puis en termes de retombées bénéfiques, ça va être très 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 limité.
Qu'est-ce qu'on peut attendre comme retombées bénéfiques en faisant du yoga pour quelqu'un qui est un peu néophyte?
Du confort. Du confort dans ses positions. C'est-à-dire que j'en ai qui viennent, qui au début se mettent en tailleur, par exemple, assis sur un tapis. C'est pas facile parce que la souplesse au niveau des hanches, au niveau du bassin, la colonne, c'est pas évident. Il y a des personnes qui sont parfois un peu frustrées parce qu'ils pensaient qu'en arrivant, ils allaient gagner en souplesse. Alors bien sûr, on peut gagner en souplesse. Mais finalement, ils ne gagnent pas beaucoup de souplesse. Mais je leur pose souvent la question, est-ce que tu as gagné en confort? Est-ce que maintenant, quand tu es en tailleur, même si tu n'as pas gagné en souplesse, est-ce que c'est plus confortable qu'avant ou moins confortable? Parce qu'avant, ils restaient 5 minutes. Au bout de 5 minutes, ils en avaient marre d'être en tailleur. Ils n'étaient pas bien. Ils étaient obligés de changer, mettre des coussins, s'agenouiller plutôt que ça soit en tailleur. Et aujourd'hui, ils peuvent tenir toute une séance avec des postures en étant en tailleur ou se mettre devant un bon film chez eux, se mettre en tailleur au sol pour travailler justement leur souplesse de hanche. Et en fait, ça devient c'est pas inconfortable pour le coup. Ils peuvent rester longtemps. Et quand ils prennent conscience de ça, waouh! Et ça leur fait tout de suite énormément plaisir au final. Des fois, le gain dans une activité, il n'est pas là où on l'attend. Et c'est ce qui fait un petit peu le sel de la vie aussi, quoi. Quand on est en attente de résultats, on a le choix de... Il y a deux solutions. Soit on atteint le résultat, on est content, soit on ne l'atteint pas. Et puis, on est frustré. Alors que quand on n'attend rien... Finalement, c'est chouette, quoi. Et puis on découvre au fur et à mesure, et puis on se connecte plus à l'instant que dans les projections. Voilà. Les projections, c'est surtout le mental. Alors que l'instant, c'est surtout quand on se connecte à soi, à son cœur, à ses tripes, encore une fois, comme tout à l'heure.
Y a-t-il une préparation spécifique pour une personne en situation de handicap avant un événement sportif ?
Avant, il y avait une question avant.
Ah ouais, donc... Quelle est votre vision sur le handicap ?
Si ça ne t'embête pas, on fait une pause, on va la refaire. Et Jérémy répond.
D'accord.
Vas-y.
Ok. Alors, quelle est votre vision sur le handicap ?
Ma vision sur le handicap.
Moi, je pourrais formuler sinon. Tu nous disais que tu as côtoyé des sportifs handicapés, tu en as même coaché. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Est-ce que ça t'a changé son regard sur le handicap ? Ou qu'est-ce que ça t'a appris ? Peut-être rien.
Ouais, non, mais moi, quand j'accompagnais les personnes en situation de handicap dans la pratique d'une quelconque activité physique ou sportive, moi, ce que je prenais en compte avant tout, c'était la personne. Moi, quand j'avais un groupe d'adolescents avec un handicap qui venait, alors effectivement, il y avait l'handicap, mais il y avait surtout l'adolescence. Voilà, ça reste quand même des ados avant d'avoir un handicap. Et après, moi, je connais notamment en yoga, il y en a qui viennent, je pense à un en particulier qui a bientôt 60 ans, qui a toujours été très sportif, qui vient au yoga, qui est très musclé. Mais alors, quand il s'installe sur le tapis, il est en situation d'handicap. Donc finalement, pour moi, l'handicap, c'est secondaire, je dirais, dans la façon dont je vais accompagner les personnes. Je les accompagne dans leur globalité, qu'ils aient beaucoup d'aisance ou pas beaucoup, qu'ils peuvent faire certaines choses ou pas. Je vais m'adapter de toute façon en prenant en compte leurs capacités, leurs difficultés, au même titre que quelqu'un qu'on définira sans handicap, tout simplement. J'accompagne les gens au-delà de ça. Voilà. Alors, bien sûr, tout en le prenant en compte, évidemment.
Du coup, par rapport à la question qu'on t'avait posée tout à l'heure, par rapport à la préparation spécifique pour une personne en situation de handicap, qu'est-ce que tu préconiserais ? Y en a-t-il une vraiment pour une personne en situation de handicap ?
Je pense que moi, je mettrais l'accent sur le fait de développer son mental. Mm-hmm. Parce que... certains pratiquants vont se dire « Ah, comme j'ai tel handicap, ça va être difficile. » Non, ça va pas être difficile. Tu vas faire ce que tu peux, ce que tu sais faire, tu vas le faire à 100%, et puis le résultat, ce sera le résultat. Que tu arrives premier ou dernier ou au milieu, tu auras donné 100% de toi-même, de tes capacités, tes possibilités, et ce sera super. Et c'est ça qui compte, c'est pas tant le résultat. Encore une fois, le sport avec cette notion de compétition, elle est intéressante, c'est joyeux d'arriver premier. Sauf que dans une course, il y a 100 personnes qui se présentent à une course, il va y avoir un gagnant qui va être content et 99 perdants. Il y a des grandes valeurs qui sont véhiculées par le sport, il y a d'autres notions dans le sport et la compétition qui sont pas évidentes à forcément accepter pour tout le monde. L'activité physique, d'une manière générale, on fait de l'activité physique pour se faire du bien. On peut jardiner en faisant de l'activité physique, etc. Le yoga est une activité physique, il n'y a pas de compétition du yoga. Le cirque, par exemple, c'est une activité physique. Mais encore une fois, c'est challengeant de faire une compétition. C'est super, on va voir un petit peu où on en est par rapport aux autres, etc. C'est bien de se comparer, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de donner 100% de ses capacités. Si tu as donné 100%, tu as gagné, quelle que soit ta place. Si tu as donné 80% de tes possibilités, c'est dommage.
Disons qu'on peut essayer de se donner un objectif et s'en approcher le plus possible, même si on ne l'atteint pas. Forcément.
Bien sûr, ça va challenger. Mais le résultat final, ce qui compte, c'est le chemin parcouru, en fait. Ce qui est important, c'est de prendre du plaisir aussi. C'est que ce soit joyeux. Si tu te lances un défi et puis qu'au final, tu es déçu, tu es en colère après toi, tu te trouves nul... Je trouve qu'on a raté la cible là, à ce moment-là. Ouais. Alors que tu avais visé, je sais pas, la 10e place par exemple, tu arrives 20e. Je vois là où je vois ce qu'il me reste à faire comme chemin à parcourir, je me suis rendu compte de ce qui m'a manqué, de ce que j'aurais pu travailler davantage en amont pour mieux réussir, et je vais essayer de le mettre en place pour la prochaine fois et ça va être génial. Voilà.
On peut essayer de progresser par palier, en fait.
Bien sûr, aussi. Après, la progression, si on peut progresser, on peut aussi régresser. Donc, c'est vrai que c'est grisant de progresser. Mais à un moment donné, on va arriver à un plateau et puis on prend de l'âge. Voilà. On va forcément régresser. Moi, quand je cours le long du canal, j'ai l'impression de... Je suis bien, je cours bien. Des fois, je me fais des petits films dans ma tête. J'ai l'impression d'être en course et tout ça avec d'autres. Puis tout d'un coup, je croise un... encore une fois, j'ai 47 ans, je croise un jeune homme qui a 20 ou 25 ans et je le vois rebondir en train de courir avec sa légèreté, sa foulée. Et puis je dis, je vois toute cette énergie qui me dépasse ou qui me croise. Et je vais avoir beau m'entraîner au maximum, jamais je retrouverai cette aisance quand j'avais 20 ans ou des choses comme ça. Cette énergie, en tous les cas, c'est comme ça et c'est important de... C'est important de l'accepter, parce que si tu ne l'acceptes pas, là, tu vas vivre dans la frustration. Là.
Est-ce que pour les compétiteurs handicapés, finalement, la préparation ne concerne pas plus la logistique que l'activité elle-même? Parce que je me rappelle de Romain qui nous parlait des problèmes de partir en avion pour aller faire du foot en fauteuil, des personnes déficientes visuelles qui peuvent se demander qui va être là pour les guider. Voilà, est-ce que ce n'est pas plus ça qui leur pose problème, finalement, que le sport qu'elles connaissent bien, quoi?
Ah ouais, je suis complètement d'accord avec toi, ouais. Effectivement, c'est la partie compétition. Dans le cadre de mon métier, de mes missions au centre Jean Lagarde, quand j'accompagnais l'équipe de foot fauteuil, il y avait un peu moins de la moitié qui était sur les entraînements et le reste, c'était sur la logistique. Hein. Ouais, effectivement, le bus spécialisé, les personnes qui nous accompagnent pour que tout se passe bien. Pour les repas, pour les couchers, pour les transferts d'un fauteuil à l'autre, avoir des pièces de rechange, avoir des pneus de rechange. c'était toute une logistique. Je dirais même pas moitié-moitié, c'était les trois quarts de logistique et un quart d'entraînement. Mais ça fait partie du game, hein, comme on dit.
Oui, moi je voulais... Quelle est la place de l'alimentation dans tout ça? Quelle est l'importance que vous accordez à l'alimentation?
Alors, elle est très grande. De mon point de vue, elle est très grande. Du point de vue de beaucoup, elle est minorée. Moi, je pense que l'alimentation, c'est une des clés aussi de la santé, avec le souffle et puis avec tout le reste. L'alimentation, c'est le carburant. Voilà, c'est les briques qu'on va ingérer pour construire son corps, pour le faire fonctionner, pour alimenter sa propre chaudière. Donc effectivement, si on se nourrit de... je vais caricaturer, hein, si on se nourrit de McDo, à un moment donné, on va s'encrasser, s'embourber et se traîner un peu plus que si on mangeait des fruits et des légumes bio, hein, de qualité, qu'on a cultivé soi-même dans son jardin. Je schématise, hein, je caricature... volontairement, mais l'alimentation, c'est primordial. Alors moi, j'ai une alimentation particulière, on va dire, qui conviendra sans doute pas à tout le monde. Je mange beaucoup cru, je mange un peu de cuit bien sûr, mais je mange beaucoup cru. Je mange plus de viande, plus de poisson, mais je consomme encore pas mal d'œufs et puis de très très rarement des produits laitiers. Mais mon alimentation, l'essentiel de mon alimentation, c'est des fruits et des légumes. Et moi, ça me convient. Je sais que c'est un régime qui ne convient pas à tout le monde. Donc, c'est OK hein, de s'alimenter. On s'alimente comme on veut. Maintenant, si on veut une...
Pas de frustration? Non.
Et puis, quand j'ai de la frustration, je peux faire un pas de côté aussi. Hein. C'est pas une religion. Donc, Moi, c'est complètement OK de manger une pizza de temps en temps. Et puis, bah, le lendemain, je vais, sur plusieurs jours, je vais faire attention. Mais socialement, c'est vrai que c'est une alimentation socialement qui met un petit peu à l'écart. Parce que c'est vrai, se faire un bon resto le soir et tout ça. Bon, voilà, moi, je n'hésite pas à boire un verre d'alcool quand voilà, on se fait un apéro, on boit une bière ensemble. Je sais que c'est pas bon pour la santé, mais c'est tellement bon pour le relationnel, pour le côté social, pour la convivialité, pour le côté joyeux de partager un verre d'alcool. Ça, on est un petit peu grisé par l'alcool et puis on raconte un peu plus de bêtises que d'habitude et on passe un merveilleux moment. C'est génial. Faut pas. Encore une fois, moi je choisis de ne pas m'en passer de temps en temps. Bien sûr. Il y a pas de frustration.
Les fameuses troisième mi-temps après les rencontres.
La troisième mi-temps, on l'alimente comme on veut, encore une fois.
Jérémy, j'aurais une question pour toi. Que retiens-tu de notre passage à Café & Co, s'il te plaît ? Comment porterais-tu ton sujet vis-à-vis de Café & Co ? Mais en plus, comment éventuellement vois-tu ton projet avancer vis-à-vis de Café & Co ? Et si cela te conviendrait éventuellement de revenir nous voir, de refaire un autre petit passage plus explicite, plus sympa, plus cordial, plus amical. Voilà. Merci, Jérémy.
Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre à cette question. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs questions dans la même question. Revenir pour un moment amical, cordial, plus cordial, je ne sais pas, parce que en fait, moi, j'ai trouvé que c'était très amical, très cordial. Je me suis régalé, j'ai pris beaucoup de plaisir à venir. J'ai trouvé ça très sympa de répondre à toutes vos questions que j'ai trouvées à la fois intéressantes, pertinentes, qui m'ont amené à me repositionner. Effectivement, ça fait du bien aussi, cet exercice. Parce que, effectivement, des fois, quand on a le nez dans le guidon, dans sa propre activité... en tous les cas, ce que j'en retiens, c'est que c'était très intéressant. J'ai été merveilleusement bien accueilli. J'ai trouvé les questions, encore une fois, pertinentes. Les intervenants... plein de souriants. Et en tous les cas, je reviendrai avec plaisir. Si vous me réinvitez, je reviendrai avec plaisir. Je reviendrai pour prendre un petit café à l'occasion parce que l'endroit est vraiment agréable. On sent qu'il y a des good vibes, comme on dit, hein, des bonnes énergies. Et c'est super tout ce que vous faites ici, en tous les cas. Et puis, si un jour, vous voulez découvrir ce que je propose, je me propose effectivement de venir faire un atelier yoga ou autre chose. Ce sera avec, en tous les cas, grand plaisir et je vous laisserai quelques flyers et quelques cartes de visite.
Juste une dernière question.
Oui.
On parlait tout à l'heure de foot fauteuil. Ce qu'on a quand même oublié de dire, c'est que tu as réussi quand même à amener une équipe de foot fauteuil à être champion de France de 3e division. Donc ça, quand même, je pense que ça s'applaudit. Et puis, du coup, est-ce qu'on aura la chance un jour de te revoir sur un banc d'une équipe de foot-fauteuil ?
Alors, sur un banc en tant que spectateur, sans doute. Après, j'ai un peu tourné la page de cette époque-là, de cette activité. J'ai eu beaucoup, beaucoup de joie. C'était vraiment très chouette, très intéressant. Maintenant, il y a tellement de choses aussi dans la vie qui sont intéressantes, tellement à découvrir. J'ai cette curiosité, cette soif de faire d'autres choses. Alors là, pour le moment, c'est du yoga et du massage principalement, mais il y a plein d'autres choses qui m'intéressent. Et donc, ce sera... Je pense pas, mais effectivement, je ferme pas la porte non plus, hein, bien sûr. Ouais, je reste ouvert à toute éventualité.
Mais merci, Jérémy, d'être venu répondre à nos questions. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont accompagné dans cet épisode. Et à très bientôt sur Radio & Co.
Merci beaucoup.
Merci, Jérémy. À très bientôt. Merci.
Merci à vous.
Radio & Co.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. Différence. Différence.
Radio & Co.